Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire.
Oui, et aujourd'hui, nous avons à nos côtés une femme particulièrement généreuse, dont le quotidien consiste à prendre soin des autres. Et en effet, c'est une infirmière passionnée et engagée qui a fait le choix d'accompagner et de donner autant que possible dans les moments difficiles que nous rencontrons, notamment liés à notre santé. Nous sommes donc particulièrement heureuses de recevoir Laurie Constantin aujourd'hui dans notre émission Femmes en Lumière.
Bonjour Laurie.
Bonjour.
Alors Laurie, comme Myriam vient de nous le dire, tu exerces aujourd'hui en tant qu'infirmière. Tu as commencé par des études de médecine pour finalement te tourner vers ce métier particulièrement prenant et qui force le respect et l'admiration de tous, infirmière. Alors peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire comment tu en es arrivée là ?
Oui, bonjour. Du coup, je m'appelle Laurie, j'ai 26 ans. Je vis en région parisienne et puis je suis infirmière depuis juillet 2020. J'ai commencé du coup mes études avec deux premières années de médecine et puis je suis pas allée au bout de ma deuxième première année. Je me suis arrêtée en cours de route et puis du coup, il a fallu réfléchir à une nouvelle orientation. Et en fait, pour moi, c'était pas envisageable de quitter le milieu de la santé. Et du coup, je me suis orientée vers des études d'infirmière. Donc, j'ai passé le concours d'entrée à l'école. Et puis, j'ai fait mes 3 ans d'études au sein d'un institut de formation. Et puis, après, j'ai travaillé 3 ans et demi au sein d'un hôpital. Okay. Donc, j'ai travaillé de nuit pendant 3 ans et demi au sein d'un service de médecine polyvalente. Et puis je suis partie, j'ai quitté mon poste au mois d'avril, en avril 2024, et aujourd'hui je travaille en tant qu'infirmière vacataire. Donc je travaille en fait dans différentes structures, je fais des remplacements voilà, à la journée ou sur plusieurs jours en fonction des besoins des établissements. Voilà.
Bah dis donc, sacré parcours, hein. Et dis-nous Laurie, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier ?
Moi, ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir accompagner les gens. Alors, évidemment, il y a le côté technique et soins qui, moi, me plaît beaucoup. Mais ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir accompagner les gens et les histoires de vie des gens. En fait, aujourd'hui, j'ai la possibilité de choisir les services où je travaille. Donc, ce qui est quand même un luxe, hein, ce qui est pas le cas de tout le monde. Et du coup, je prends le temps de parler avec les gens, de parler avec les patients, mais aussi avec les familles, et voilà, de pouvoir les histoires de vie, ouais, des patients et qui sont parfois très anodines, mais voilà, qui font ce qu'ils sont et les patients qu'ils sont. C'est quelque chose qui me passionne profondément.
Donc, vraiment le côté humain, en fait, vraiment, ouais, d'aller absolument à la rencontre de chacun.
Exactement, c'est exactement ça.
Et du coup, tu es amenée à aller chez les gens, ou tu vas principalement dans les structures ?
Alors non, moi je vais pas chez les gens. Okay. Je fais pas de domicile. Okay. C'est quelque chose qui, pour le moment, m'intéresse pas, qui peut-être viendra m'intéresser un jour. Mais non, moi je travaille essentiellement dans les structures, donc que ce soit des structures de rééducation, des cliniques ou même des hôpitaux. C'est voilà, c'est très varié et j'ai la chance de pouvoir choisir.
Super. Ouais.
Alors tu nous disais que donc tu avais commencé par faire médecine, en fait, commencer par les études de médecine. T'aurais pu lâcher l'affaire, en fait. Bon, et puis c'était voilà, cette vocation là a été la plus forte. Et en fait aujourd'hui, alors quand t'as 21 ans, tu te retrouves pour la première fois dans un service de soins palliatifs.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter comment on vit une expérience comme celle-là à seulement 21 ans ?
Eh bien, en fait, moi, c'était un choix, puisque c'était j'étais en dernière année de formation donc à l'IFSI, c'est un stage qu'on m'a proposé, donc mes formatrices m'ont proposé, parce que c'est un stage qu'on peut pas imposer. Donc on me l'a proposé, j'ai accepté. Moi j'étais très curieuse en fait de ce service parce que c'est un service dont on entend parler mais dont on ne connaît pas vraiment le fonctionnement. Moi j'étais très curieuse de savoir comment ça se passait, de savoir ce qui se passait derrière tout ça. Et en fait alors oui, il y avait un peu d'appréhension parce que on sait qu'on va être confronté à la mort, au décès, au chagrin des gens. Mais étrangement, moi, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Très vite, je me suis sentie très bien dans ce service. J'ai beaucoup appris, tant sur le plan évidemment technique et de mon métier, voilà, mais aussi sur moi. Et c'est un service où j'ai compris pourquoi je voulais être infirmière, parce que j'ai pris pleine conscience de ce qu'était mon métier. Mmh. Et du coup. Ça a été pour moi un peu la révélation.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui fait que ça devient limpide pour toi?
En fait, étrangement, on dit tous qu'on a rencontré le patient ou l'infirmière qui nous a fait comprendre notre métier, ou on a tous eu ce déclic qu'on n'explique pas. Hein, mais et moi, ça a été un peu les deux. J'ai eu le patient le premier patient que j'ai pris en charge dans le service, qui était un jeune patient en plus, hein, 40 ans, donc 40 ans en soins palliatifs, c'est pas évident, avec une femme, des enfants, voilà, et en soins palliatifs, mais autant dans les autres services, mais encore plus en soins palliatifs, on s'occupe et des patients et des familles, parce qu'on les accompagne aussi. Et j'ai eu la chance d'être encadrée par une super équipe d'infirmiers et d'aides-soignants, mais aussi les médecins, parce que et malheureusement, le patient est décédé. Bon, c'était inévitable. On le savait et on m'avait prévenu au moment du choix que j'ai fait de le prendre en charge. Mais voilà, perdre mon premier patient, un patient de 40 ans, c'est jamais simple. Et j'ai été très bien accompagnée par l'équipe qui m'entourait. On m'a expliqué pourquoi. On m'a expliqué comment ça allait arriver. Et en fait, moi, j'ai eu la sensation d'aller au bout d'une prise en charge. Parce que c'est vrai que quand on prend en charge les patients dans des services en médecine ou ailleurs, on s'en occupe sur un temps donné. Et après, ils s'en vont et on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Alors certains, on les revoit pour une suite de prise en charge, mais on n'a jamais de suite. Là, oui, alors il y a le décès à la fin, malheureusement c'est inévitable, mais pour moi il y a on va au bout de quelque chose. Je vais au bout d'une prise en charge, autant avec les familles qu'avec le patient, je les accompagne jusqu'au bout on reste en fait auprès d'eux. Moi aujourd'hui, je continue à travailler en soins palliatifs et en oncologie. Je vais au bout de quelque chose, j'accompagne jusqu'au bout et c'est un peu le bout du chemin en fait pour moi et c'est là où pour moi tout a pris un sens en fait, d'aller au bout de quelque chose. Oui. Voilà.
Ouais, de pouvoir j'imagine que c'est ce lien, la beauté du lien en fait qui est créé.
Ouais, c'est
sentir une mission aussi. Une mission accomplie.
Une mission accomplie. Alors après, je le ressens tout autant quand je prends en charge des patients dans d'autres services. Hein, à partir du moment où on a des patients qui rentrent pour des douleurs et qui sortent, qui sont soulagés ou qui rentrent pour, qui viennent pour d'autres pathologies et qui rentrent chez eux et qui vont mieux. Il y a ce sentiment de mission accomplie. Mais je sais pas, il y a ce truc que je peux pas expliquer en fait. Oui.
C'est ça. C'est quelque chose qui peut paraître en plus complètement contre-intuitif en fait. C'est-à-dire que tu nous dis, moi j'ai le sentiment, d'aller au bout, d'accomplir ma mission jusqu'au bout. Ouais. Et c'est paradoxal parce qu'au bout, c'est pas ce qu'on attend.
Oui, parce qu'on nous dit souvent qu'on est là pour sauver des vies, voilà. Etc. Alors moi je dis toujours il y a une limite à ça, mais on n'est pas des super-héros non plus. Moi je vois plus ça comme accompagner les gens et que ce soit en soins palliatifs ou ailleurs. Ouais. Mais voilà, il y a ce sentiment de accompagner les gens, accompagner la fin de vie, parce que c'est important, et accompagner les familles.
Et c'est ça je trouve qu'il force vraiment l'admiration chez toi, Laurie, parce que franchement, à 21 ans, avoir cette maturité-là, que finalement, c'est ce chemin-là, quelle que soit l'issue, finalement. C'est pas tant l'issue qui compte pour toi, c'est plus le chemin, la manière dont je vais pouvoir entourer, prendre en charge, et c'est ça qui
est beau,
qui bah ouais, c'est ça qui est hyper beau. Et alors donc du coup, tu te retrouves finalement en médecine polyvalente de nuit et à ta demande. Donc en fait, c'est quand même assez extraordinaire. Donc tu nous as dit que tu devais y rester 6 mois au départ. Voilà.
Pas du tout.
Non. Et pas du tout. Ça a pas duré 6 mois. Ça a duré combien de temps?
Ça a duré 3 ans et demi.
3 ans et demi au lieu de 6 mois. Alors, pourquoi est-ce que t'as fait ce choix de la nuit?
Alors, pour plein de raisons qui sont tout à fait subjectives et personnelles. Hein. Moi, j'ai un gros souci avec le téléphone qui sonne toutes les 2 minutes, la journée, le trop plein de monde, etc. Et en fait, moi, donc j'ai fait mon dernier stage de formation de jour pendant 2 mois, donc j'ai pu vraiment prendre conscience de la vie d'un service. Et en fait, moi, je pouvais le téléphone qui sonne tout le temps,
toute l'agitation,
toute l'agitation. Et en fait, j'arrivais plus à m'occuper des gens, à m'occuper de mes patients. Et là, je me suis dit non, en fait, je vais pas pouvoir. Je crois que je vais pas y arriver. Et donc, j'ai fait le choix de travailler de nuit parce que la nuit c'est plus facile. Hein, le téléphone il sonne pas. Il y a moins de familles parce que bon, il y en a quand même un peu la nuit. Il y a moins de médecins qui courent partout, et puis il y a beaucoup moins de personnel. Donc c'était ma première motivation et la plus forte en fait, je dirais.
Et il y a eu un événement qui t'a marqué là la nuit. Est-ce qu'il y a un
la nuit, il se passe plein de choses.
Ouais, hein, c'est ça. Est-ce qu'il se passe des choses différentes la nuit que le jour déjà?
Exactement. Bah, tu peux vite te retrouver en difficulté, quoi, parce que ouais, t'es tout seul. Enfin, ouais, alors moi, j'étais toute seule dans mon service, donc jeune diplômée, avec une aide-soignante qui était pas là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc très vite, tu peux vite te retrouver en difficulté, même si la nuit, on est quand même tous très solidaires. Mmh. Moi, je me suis retrouvée en plus avec une étudiante que j'encadrais. Ça faisait 3, peut-être 4 mois que j'exerçais. Et je me retrouve à devoir faire un soin et je sais pas faire. Et là, il faut savoir faire. Donc, on prend son téléphone, on regarde sur YouTube et puis on apprend toute la nuit et puis on croise les doigts pour que ça se passe bien. Par chance, ça s'est très bien passé. Mmh. Mais oui,
ça crée colle de l'autonomie, quoi.
Pas le choix. Ben oui. La nuit, pas le choix.
Et donc, quel témoignage, Laurie. En tout cas, on se retrouve très vite parce qu'on a envie de ces anecdotes d'infirmières, de ce métier passionnant et très touchant. Donc on fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour continuer l'émission Femmes en Lumière avec notre invitée du jour, Laurie Constantin, infirmière de notre région. À tout de suite. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got 4 feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Laurie Constantin, infirmière, est notre femme en lumière du jour. Alors Laurie, tu as témoigné dans cette première partie d'émission des moments forts de tes débuts en tant qu'infirmière. Et on voit que c'est un métier que tu exerces avec une passion toute particulière. À côté de ça, il y a un sujet quand même forcément qu'on ne peut pas ne pas aborder quand on parle du métier d'infirmière. Il y a eu une grande consultation de l'Ordre National des Infirmiers en décembre 2021. Donc tout le monde aura compris qu'on est au moment de la crise post-Covid. Donc cette consultation, elle a été faite auprès de 60 000 infirmiers et infirmières inscrits à l'Ordre National des Infirmiers. Et les retours ont permis d'établir que 85% des infirmiers jugeaient leurs conditions de travail dégradées. 72% décrivaient un état d'esprit marqué par la lassitude. Et il y en a 15% qui disaient vouloir changer de métier carrément dans les 12 mois à venir. Alors la première question qu'on a envie de te poser, bien sûr, c'est quel regard toi tu portes sur tes chiffres et dans quelle mesure cette situation a motivé tes choix ou motive tes choix aujourd'hui?
Oui, je suis plutôt en raccord avec tout ce que tu viens de dénoncer. C'est vrai que c'est un métier qui est difficile et en fait, c'est déjà un métier de base qui est compliqué et on travaille dans des conditions qui sont plus que compliquées. Moi, je suis issue de ce qu'on appelle les promotions Covid, puisque j'ai fini ma formation en plein Covid. Ouais. On aurait pu penser que, en fait, on allait tous quitter le navire et puis, une fois diplômés, ne plus travailler. C'est pas du tout le choix que j'ai fait et étrangement c'est pas du tout le choix que l'ensemble de ma promotion a fait puisqu'on est tous rentrés ensuite à l'hôpital. Mais c'est vrai que on nous dit que l'espérance de vie d'une infirmière c'est entre 3 et 7 ans. Donc déjà quand t'entends ça, ça fait un peu peur quand
c'est
même.
C'est fou, c'est sûr.
Et moi quand je suis partie, quand j'ai fait le choix de quitter mon service et de quitter l'hôpital où je travaillais, la première question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais alors pas la question où est-ce que tu vas aller travailler, c'est quel métier tu vas faire maintenant.
Ah oui, sous-entendu,
ça y est, t'es arrivé au bout de tes 3 ans, bien joué. Et puis qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors moi j'avais pas du tout envie de changer de métier, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. C'est juste que moi les conditions dans lesquelles je travaillais c'était plus possible. Les choix de direction qui avaient été faits précédemment me correspondaient plus, mais c'est surtout le manque de matériel.
Tu travaillais à l'hôpital public, hein.
Je travaillais à l'hôpital public et le manque de matériel, le manque de médicaments, le manque de personnel, devoir presque faire du troc avec mes collègues d'en face pour avoir des antibiotiques. J'étais arrivée à un stade où je supportais plus en fait et ça se répercutait un peu sur ma pratique avant que ça se répercute vraiment sur les patients dont je m'occupais, j'ai préféré partir, prendre du recul sur la situation en me disant peut-être un peu naïvement clair, ça serait peut-être un peu plus verte ailleurs. Bon, on va pas se leurrer, c'est pas plus vert ailleurs.
Parce que là, tu travailles encore dans le domaine public ou essentiellement privé?
Essentiellement privé, je travaille encore dans le domaine public, mais essentiellement privé. Et en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment mieux dans le domaine privé. La situation, c'est un peu l'image qu'on en a, que dans le privé, ils sont peut-être un peu... alors privilégiés, j'aime pas ce terme.
Qu'ils ont plus de moyens?
Qu'ils ont un peu plus de moyens, mais en fait, c'est pas vrai. C'est malheureusement, j'aurais presque aimé que ce soit le cas en me disant il y a encore une partie qui est sauvegardée. Malheureusement aujourd'hui c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors oui, il y a un peu plus de matériel, mais il manque autant de personnel. Et c'est bien. Enfin aujourd'hui, il y a de plus en plus d'infirmiers intérimaires et infirmiers vacataires. Donc c'est que les gens quittent le navire. Enfin voilà, c'est malheureux. Hein. Le constat il est malheureux, mais et moi, enfin qui ai encore des contacts avec les gens de ma formation et de ma promotion, on était, je dirais peut-être 80% à avoir pris un poste au sein d'un hôpital public, pardon.
Et aujourd'hui, je pense qu'on est une bonne moitié de la promotion à être infirmier vacataire ou intérimaire.
Ouais, par choix, quoi.
Par choix, oui, complètement par choix.
Et quelle différence, en fait, tu constates pour toi dans la pratique de ton métier? Si je peux parler comme
ça. Confort.
Ouais. Quel type de confort, finalement, ça t'apporte?
D'être vacataire?
Oui, d'être vacataire par rapport à
l'indépendante, en fait. Le confort, c'est de, si le service me plaît pas, si ça se passe mal, j'y retourne pas.
D'accord. Donc c'est de pouvoir dire non,
c'est de pouvoir te préserver. C'est de me préserver et de pouvoir, alors il y a aussi le côté pouvoir changer de service régulièrement et du coup, moi, je pars du principe que c'est un métier où on apprend tout le temps, parce que la médecine avance, parce que les protocoles changent, et puis d'une structure à l'autre, les protocoles sont pas les mêmes, et donc c'est aussi intéressant. Et donc le confort pour moi, il est là. C'est deux choses, c'est de pouvoir dire non et de ne pas y retourner si ça me plaît pas ou si ça me convient pas, et de pouvoir me former dans les services aborder des choses que j'aurais peut-être pas pu aborder au sein de l'hôpital public.
À élargir ta palette, quoi.
Complètement.
Et alors, du coup, dans ta promotion, vous étiez majoritairement des femmes ou il y avait aussi pas mal d'hommes?
Alors, nous, on était majoritairement des femmes. Ils étaient 6 hommes dans ma promotion.
Sur combien, à peu près?
Sur 70 élèves.
Ah oui, voilà.
Ouais. Et sur les promotions d'après, c'était à peu près, bon, il y en avait peut-être un peu plus au fil des années, mais bon, il reste quand même très minoritaire.
Ça reste, ouais. Alors, parce que du coup, si je te pose cette question, Laurie, c'est parce que du coup, d'après un article des Échos, qui est paru en novembre 2022, on est aujourd'hui sur une tendance à la féminisation du métier de médecin. Les femmes médecins représentaient 44% en 2020, et on estimait à l'époque qu'elles en représentaient la moitié en 2022. Donc c'est plutôt positif, mais en parallèle, on a 60% d'étudiantes en médecine et on n'a que 14% de femmes chirurgiens, 13% de doyennes en faculté et encore 20% seulement de professeurs d'université et de praticiens en hospitalier. Alors, même si c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes infirmières, on se rend compte quand même que le domaine de la médecine de femmes médecins est encore principalement géré par les hommes, par les médecins. Quel regard tu portes sur ce chiffre, sur cette tendance? Et toi, est-ce que tu as eu des rencontres avec des femmes médecins ou lors de tes expériences?
Alors moi, j'ai été dans un service qui était géré par une femme. Hein. J'avais une chef de service femme avec trois médecins femmes avec elle. Après, oui, c'est vrai qu'il y a la majorité d'hommes. Après. Le pourquoi du comment, je sais pas trop. Moi, je pense que comme les études sont très longues en médecine, peut-être que ça s'explique aussi par ça. C'est peut-être plus difficile pour difficile. Je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être plus compliqué pour une femme de faire des longues études. Parce que voilà, pour être chirurgien, c'est minimum 12 ans d'études. Je pense que quand t'as envie de faire une vie de famille, ça peu compliquer les choses. Après, il y en a qui y arrivent et je pense que rien n'est impossible, mais peut-être un peu plus compliqué pour une femme, en tout cas. Pourquoi il y a plus d'hommes, très sincèrement, je ne sais pas.
Oui, enfin, en tout cas, les raisons que tu as évoquées sont celles qu'on retrouve très souvent. C'est ça, c'est que au moment de la spécialisation, c'est tellement long, c'est les moments où les femmes ont envie de fonder aussi leur famille. Donc bon, ça s'explique pas mal comme ça. Mais tu nous as raconté, en préparant l'émission, une anecdote quand même assez étonnante sur l'effet un peu de la blouse blanche.
C'est vrai que nous, alors il y a quelques hommes hein, quand même infirmiers, on en a certains, mais c'est vrai que alors moi on n'a pas ce rapport homme-femme entre nous, entre collègues. J'ai jamais senti de différence en étant une femme ou face à un collègue homme. Mais c'est plutôt les patients qui nous le font bien sentir. Si je rentre avec un étudiant ou un collègue infirmier, alors que pour autant on porte la même blouse, hein, puisque voilà.
Elle est blanche.
Elle est blanche.
Pour les deux.
Pour les deux, pantalon et tunique, donc on ne peut pas nous différencier. Systématiquement, ou on va dire à 95%, on va l'appeler docteur.
d'accord. Alors qu'il ne l'est pas, hein.
Ah oui, alors qu'en fait, il est infirmier et du coup, tout le monde le prend pour un médecin.
Pour le docteur.
Voilà, pour le médecin.
Incroyable.
C'est quasiment systématique et je pense que toutes les infirmières, de toute façon, le diront, hein. C'est assez flagrant. Donc bon, nous, on préfère en rigoler parce que, voilà. Puis après, quand on leur dit que c'est nous l'infirmière, etc., les gens, on sent un peu le malaise, voilà. Mais voilà, c'est assez systématique. On va leur dire bonjour docteur.
Alors qu'en fait non,
ou alors c'est juste mon étudiant qui est là.
Et alors qu'est-ce que tu dirais, bah du coup on parle d'étudiants, qu'est-ce que tu dirais à un jeune homme ou femme, peu importe, qui aimerait se lancer dans ce métier passionnant et magnifique qu'est le métier d'infirmier, qu'est-ce que tu lui dirais?
Déjà de bien réfléchir, parce que c'est quand même un métier qui est difficile. C'est un super métier, franchement c'est un très très beau métier, mais il faut s'accrocher. Ouais. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est ça, c'est qu'il faut s'accrocher. Les études, elles sont très courtes. 3 ans, ça passe très vite. On fait beaucoup de stages, mais ça passe très très vite. Et quand on arrive au bout des 3 ans, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc oui, faut s'accrocher pas hésiter à persévérer, ouais, tout à fait.
Super. Bah merci beaucoup en tout cas Laurie pour ces précieux conseils qui permettront peut-être à nos auditeurs et auditrices de se lancer, qui sait.
Et oui Laurie, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin et pour la clôturer, nous avons 2 rituels. Alors le premier, bah, on aimerait connaître ton livre fétiche. Alors moi je sais que t'es une super lectrice et que là ça pour toi c'est hyper dur de n'en choisir qu'un, mais quand même t'as bien un coup de cœur.
Oui, des coups de cœur j'en ai plein, mais là un dernier en date ce serait Tout le bleu du ciel de Mélissa D'Acosta.
Ouais. Et alors pourquoi ce choix, dis-nous.
Parce que c'est un livre qui fait écho en fait à ce que je peux vivre en tant qu'infirmière. Alors ça parle pas du tout d'une infirmière, hein, mais voilà, ça parle d'un accompagnement d'une jeune personne malade. Voilà, donc
qui a atteint d'Alzheimer
à 26 ans.
Hein.
Ouais, un Alzheimer précoce. Ouais. Voilà, et qui rencontre une inconnue qui va l'accompagner jusqu'à la fin. Donc voilà, ça a été ça fait un peu écho à ce que moi je traverse
dans ton quotidien.
Dans mon quotidien.
Une belle résonance, oui.
Et alors du coup, bah merci pour ce partage, hein, qui donnera envie, je pense, à plusieurs de nos auditeurs de lire ce roman. Et alors deuxième petit rituel, Laurie, qu'est-ce que l'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à exercer mon métier avec passion. Je pense, c'est le plus important.
Eh ben écoute, on te le souhaite en tout cas. Et garde toujours les paillettes dans tes yeux.
Ouais, c'est ça. Vive la passion et voilà. Et merci pour cet engagement tellement précieux.
Merci.
Notre émission se termine. Un grand merci à tous nos éditeurs de nous avoir accompagnés lors de ce témoignage. On vous retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 18h30 en compagnie d'une nouvelle femme formidable et inspirante. Et en attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'IDFMradio.fr et sur l'Instagram des Femmes en Lumière. Encore merci et au revoir Laurie.
Au revoir.
Au revoir, au revoir. Laetitia.